J'aurais voulu être un DevOps pour orchestrer mes containers et Kubernetes lance mes microservices dans le cloud pour mon portfolio. Ah. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode très spécial de Full Stack Sentimental où je reçois mon premier invité, mon ami et ancien collègue Florian Horpelière pour une discussion autour du parcours, du métier de développeur, etc., etc. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve à la fin. Bisous!
Ça marche. Du coup, je m'appelle Florian Pellière. Je travaille à Dailymotion. Je suis principal engineer à Dailymotion, dans l'équipe AdTech principalement. Et ça fait 7 ans que je travaille à Dailymotion maintenant. Et ça fait à peu près, j'ai pas compté, mais ça doit faire quasiment 12 ans que je fais du dev maintenant.
Trop bien. Toujours dev.
Toujours dev. Ouais, ça par contre, ça change pas. Ouais.
Et demain, toujours dev aussi.
Demain, toujours dev, jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que je sois
Jusqu'à la fin.
vieux et sénile. Ça,
Comme t'as un
ça.
clavier, ça continue.
Yes, tant que le cerveau tourne et que les doigts fonctionnent, on est tout bon.
J'ai commencé un peu ce podcast pour parler un peu des technos, mais ce truc de dev, de c'est quoi le métier de dev, etc., c'est un sujet que je veux travailler particulièrement en invitant des gens comme toi. Donc, c'est quoi une carrière de dev? Ça commence où? Ça va jusqu'où?
C'est une bonne question. Alors, ça commence forcément. Tu commences forcément par être junior dev quelque part dans une entreprise, peu importe laquelle. Tu peux. Et dev, c'est tellement large parce que tu peux faire du front, du back, tu peux être plus en sécurité, tu peux être plus en DevOps, tu peux être faire des fois l'infra dans certaines boîtes. Enfin, disons que c'est hyper large. Donc il y a plein de choses à faire, ça c'est sûr. On aurait tendance à dire que c'est bien d'avoir un diplôme d'ingénieur, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire de nos jours.
OK.
Ça, c'est un truc qu'on pourra discuter. Et puis après, tu peux évoluer. Et souvent, les perspectives d'évolution, c'était souvent le management. Et je dirais qu'en France, maintenant, tu as une tendance dans certaines entreprises où l'expertise technique commence à être reconnue, enfin. Et ça, c'est drôlement bien. Ça, c'est drôlement bien pour les gens qui sont vraiment à fond techno et pas du tout management, parce qu'au final c'est deux métiers différents.
Ouais, bien sûr.
Ben c'est bien d'avoir sa voix à soi pour pouvoir et pour être bien dans ses baskets. Ouais. Mais ouais,
OK.
c'est carrière de dev, c'est quand même assez large au final. Hein.
Ouais. Et donc toi, tu es passé par quoi? Parce que tu m'as parlé de plusieurs trucs là. Toi, est-ce que tu as fait un peu de tout ça ou est-ce que tu t'es plutôt bah, axé sur un sous-ensemble de tout ce que tu as cité?
Alors j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'études au laboratoire d'informatique, d'électronique et d'image, qui est à Dijon, labellisé CNRS à l'époque. Je ne sais plus si c'est toujours le cas. J'ai travaillé dans une équipe de recherche, c'est juste après ma licence. Donc j'ai qu'une licence, j'ai pas de diplôme d'ingénieur, ou équivalent.
Ouais, moi je suis allé un petit peu plus loin, mais je suis pas ingénieur non plus. Du coup, quand
J'ai
je
pas.
rencontre des vrais ingénieurs, je leur fais la blague.
J'ai pas le Saint Graal. Je sais que pour certaines entreprises, c'est hyper important. Pour certains ingénieurs, c'est très important. J'ai tendance à dire que ça l'était pour moi, fut un temps, mais ça l'est plus avec le temps. Donc j'ai commencé là-bas. C'était hyper bien parce que je suis tombé dans une équipe de recherche qui faisait du web sémantique. Et je pense qu'elle en fait toujours. Et j'étais le seul développeur. Et qui plus est le seul ingénieur, il n'y avait que des thésards à côté, et vraiment il n'y avait rien. C'était vraiment la feuille blanche, et fallait monter des trucs, fallait monter des applications, aider les thésards à faire des POC, proof of concept, pour valider leur thèse. Donc ça demandait quand même voilà, avoir un petit peu le cerveau qui tourne. Et puis c'était cool de discuter avec eux parce que eux, ils avaient un domaine d'expertise bien précis, des fois même très niche. Il fallait comprendre ce qu'ils voulaient faire et le coder. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis tu avais toute la partie infra qui était vachement bien, où il fallait bah, aider l'équipe de recherche à se consolider. Donc il fallait monter des serveurs, leur donner accès à des mails internes, donc des trucs qui ont l'air tout con, mais monter un serveur SMTP, c'est pas forcément si simple à première vue, surtout quand tu sors de l'école. Donc c'était dont un truc qui était trop rigolo, c'est je me souviens, on a commandé des machines. Donc là, on m'avait donné un coup de main pour commander des machines, des vrais serveurs physiques Dell, donc des vraies baies qu'on a montées à l'université. Et vraiment, je me rappelle le mec de Dell qui vient, qui pose les serveurs, qui me fait signer et qui se casse et je le rattrape en lui disant, mais vous m'aidez pas à configurer. Il m'a dit, bah non, 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 c'est vous vous débrouillez. Et j'ai fait, ah ouais. Et là, je me suis retrouvé seul avec des cartons et une baie vide. Et je me suis dit, bon, bah c'est parti, faut que je trouve comment faire.
On met les mains dans le cambouis et c'est
Ah ouais,
parti.
là, c'était la dure, mais c'était hyper enrichissant. Et puis, bah, quand on est jeune développeur, bah, bon, vas-y, on essaye de toute façon, on verra bien. Et c'était vraiment pas mal. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Donc, j'ai fait un peu de tout. Après, il m'a manqué un truc au bout de 2 ans. Je crois que j'ai fait, oui, c'est ça, 2 ans et demi. Il m'a manqué un truc, c'est que comme j'étais tout seul, alors on a recruté 2 autres ingénieurs avec le temps, mais c'était bon, ils étaient comment en fait? Ils étaient affectés à des thésards, et puis ben, on était un petit peu en silo au final. Donc on discutait, on avait des trucs communs, mais ça restait quand même un petit peu du système D, je veux dire. C'est que tu faisais comme tu le sentais, mais tu n'avais aucune notion de comment faisait l'industrie à côté. Et ça, c'était un truc qui me manquait. Je voulais me confronter au réel, à l'industrie, me dire, ben, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou est-ce qu'on peut faire mieux? Et puis, ben, j'avais un copain qui connaissait quelqu'un qui travaillait chez Sphere, donc une SS2I sur Paris. Et puis, en discutant, je suis allé passer un entretien comme ça, en me disant, vas-y, tiens, on va voir. L'entretien s'est bien passé. Puis, je me suis dit, allez, grato banco, on va à Paris, puis on va faire un petit peu du dev avec dans plein de boîtes différentes. Ça doit être cool. Je connaissais pas vraiment le monde OS. Ça s'appelle plus SS2I maintenant, je crois. Mais bref.
Moi, j'ai en tête ESN, le dernier nom à la
Ah.
mode pour ce genre de truc, mais ça a sûrement encore changé, non?
Et du coup, là, abandonner ma copine qui est devenue ma femme aujourd'hui, donc l'abandonner de Dijon, et moi je vais tout seul à Paris. J'ai pris un appart là-bas. Je connaissais pas Paris parce que c'était un peu l'horreur. Et puis, bah, vas-y. Tu pouvais prendre, enfin, en tout cas, quand t'es jeune, tu peux prendre des risques. Donc, c'était le moment d'en prendre. Ça a bien marché. Je me suis bien plu à se faire pendant, pareil, je crois, 2 ans et demi. C'était hyper cool. C'est là où je t'ai rencontré, mon Siegfried. Plein de gens bien, plein de gens hyper intéressants. J'en ai quelques-uns en tête. Romain Maton, qui a travaillé avec nous à AXA.
Ouais.
Alors,
Ouais, il
monsieur.
faudra que je l'invite, Romy nous
Ah ouais,
aussi.
Romain Maton, je pense que ça peut être
Romain
cool.
Maton qu'on appelle Romy nous.
Robinou, Jérém Star, Jérémy Ménétrier, avec qui on a travaillé aussi à AXA,
Ouais.
et puis bien d'autres de Sphère qui ont été hyper cool, qui sont des gens hyper intéressants, avec lesquels j'ai beaucoup appris. Et puis ben, un petit peu de la même façon que la première expérience, je me suis dit bah, c'est bien, maintenant j'ai acquis ce que je voulais avoir, mais j'aimerais bien travailler dans une boîte où je reste un peu plus longtemps, parce qu'au final, quand on est envoyé en mission, ben on fait la mission, puis on s'en va. Et puis c'est terminé. On voit que je dirais qu'on voit que le bon côté des choses, souvent. On voit la création de l'application, mais on n'a ni sa maintenance, ni son cycle de vie, ni toutes les merdouilles d'à côté, puis ni ses évolutions. Enfin, il nous manque plein de choses, en fait. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien voir si on ne peut pas construire un truc et puis l'amener jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe après? Et ça s'est passé à peu près pareil. Je déjeune avec un copain qu'on a en commun qui travaille avec AXA avec nous, Vincent Béard, un de mes plus grands, je dirais, un de mes plus grands mentors aujourd'hui encore, et qui travaille à Ubisoft maintenant. Et il me dit, bah tiens, on met en place, on réécrit de, on refait de zéro un système de publicité à Dailymotion. C'est vraiment, on est au début. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je suis allé passer l'entretien. Le premier entretien, c'est pas très bien passé, on va être franc, parce que anglais, parce que pff, plein de choses. principalement l'anglais, on va pas se mentir. Et puis, j'ai perdu mes moyens. J'ai quand même réussi à décrocher un second entretien, malgré tout, malgré que le premier s'était bien passé, c'était mal passé. Et le second s'est hyper bien passé, j'ai réussi à me calmer entre-temps. Et je suis rentré. Je suis rentré en tant que mid front-end à Dailymotion.
Ok.
Mid front-end, ouais, c'est ça. Même si j'étais senior, je crois, j'étais considéré comme senior à Sphere. Ils voulaient me mettre mid au début, au moins pour un an, parce qu'ils n'avaient pas confiance. J'ai accepté, je me suis dit, c'est pas grave. Enfin,
Ça se tente,
voilà. Ouais, y aller, on essaye, on verra bien. De toute façon, j'ai rien à perdre.
ouais.
Et puis, bah, ça fait 7 ans. Voilà. Ça fait 7 ans.
C'est
Donc,
trop bien.
j'ai grandi, j'ai arrêté de faire que du front. Après, j'ai fait un peu de back, j'ai fait un peu les deux. Je suis allé faire un peu de data. Puis maintenant, je fais un petit peu tout ce qui me tombe sous la main. Et ça, c'est cool.
Ok.
J'ai retrouvé ce que je voulais, ce que j'avais au début de ma carrière, c'est-à-dire un peu touche à tout. Et je suis content de l'avoir retrouvé enfin.
J'adore ce côté touche à tout aussi, moi. Et puis en plus, hein, je pense que maintenant, tu as pu faire aussi ce que tu voulais, le projet du début à la fin. Toi, tu n'es pas limité par ce temps de mission de un, 2 ou 3 ans. Là, tu as vraiment ton produit que tu vas faire évoluer vraiment sur la durée.
Ah ouais, clairement, parce que le produit, donc il s'appelle Léo, le produit AdTech chez Dailymotion, c'est son petit nom de code. Et Léo, on l'a donc construit en 2018. Il avait déjà commencé, je crois, fin 2017. Moi, je suis arrivé en avril 2018. Et donc là, on est en 2025. Le projet, on a vu sa mise en route pour la première fois. On a commencé à gagner nos premiers euros avec, je m'en souviens très bien. On avait une grande télé dans l'open space. Et on avait mis justement les données, de la data pour voir un petit peu ce qui rentrait comme argent par jour. Et là, on voit les premiers euros, on voit la petite barre qui se lève enfin sur justement l'argent gagné. Et on voit quelques euros. C'était ridicule, hein, c'était 10 balles, je crois, qu'on gagnait. Mais on s'est
Mais
dit,
c'est que ça marche, c'est que ça
c'est
démarre, quoi.
bon, ça se met en route. Donc, c'est une machine qui marche bien. Ça, c'est cool.
Ouais.
Ça fait vivre du monde. Et puis, ça, surtout, Dailymotion, c'est le nerf de la guerre, c'est 99% il me semble, de nos revenus, la publicité. Donc voilà. Et c'est un truc qui tourne toujours, on le fait continuer à le faire évoluer. Et puis ben, et puis je m'éclate toujours autant, même si ça fait 7 ans que je travaille sur le même truc. Donc ça, c'est cool.
Enfin, tu travailles sur le même truc, mais tu as découvert plein de parties différentes au fur et à mesure.
Exactement, ouais. Puis on en a créé
Ouais.
entre-temps. Donc c'est ça qui est bien. Ouais. Ça, c'est vraiment bien.
Ok. C'est ok pour toi de pas devenir manager?
Ouais, carrément. C'est d'ailleurs la chose qui me fait le plus peur, parce que quand on est, en tout cas, à mon époque, quand on était en DUT ou en école d'ingénieur, peu importe, on nous a un peu seriné. Je sais pas si toi c'était pareil, mais de dire, bah ouais, si vous voulez évoluer, c'est manager, quoi. T'as pas le choix. T'avais pas ce choix.
C'est la suite logique du dev, ouais.
Exactement. Et c'est un truc qui m'a toujours un peu effrayé, parce que je me suis dit, mais j'ai pas envie d'en faire. En fait, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est juste que c'est pas mon domaine d'expertise, c'est juste ça le truc. Et on y reviendra en plus, parce que dans le rôle d'un ingénieur, tu as le côté où tu dois mentoring, mais c'est différent. C'est à part le management, c'est vraiment autre chose, c'est un autre métier. Et j'étais vraiment effrayé à l'idée de me dire, bon, ben, j'ai l'impression que ma carrière, elle s'arrêtera à senior, et puis ça sera tout, et puis ça sera déjà pas si mal, et puis voilà, du moment que je fasse un truc qui me plaît. Et quand j'ai découvert donc que Dailymotion avait refait justement ce qu'ils appellent leur carrière pass, et que j'ai vu qu'ils avaient fait une branche spécialisée pour la technique, oh, là j'étais aux anges, je me suis dit, ah, trop bien, enfin un endroit où j'ai des perspectives d'évolution qui ont l'air intéressantes, avec des scopes qui deviennent de plus en plus grands. Et ça, c'était cool. Ça, c'était cool.
Et
Donc,
moi, avant d'arriver à Sphere, je m'étais posé la question, est-ce que je continue dans le dev? Est-ce que j'essaie d'aller vers genre gestion de projet ou trucs comme ça? Il y a le manager projet, le manager équipe, hein, c'est pas forcément la même chose. Mais... Et Sphere, ça m'a conforté à le truc pour moi, c'est la partie technique. Hein. Et ça c'était bien, hein, avec tous les nerfs de Sphere.
ouais.
Donc ça m'a conforté au moins dans le chemin que je voulais prendre à l'époque, quoi.
Ouais, c'est clair. Ça casseur. T'es bien entouré, t'avais des gens qui étaient tous, enfin la plupart en tout cas étaient très très nerds comme tu dis. Et ça c'est vrai que c'était trop bien quoi. C'était
C'est
vraiment trop.
marrant, ouais.
T'apprenais toujours quelque chose de nouveau avec quand tu discutais avec quelqu'un, c'était trop bien.
Ouais. Même si moi, à ce faire, j'étais un team leader, là, donc c'est la partie manager. J'étais quand même un dev qui s'occupait de quelques personnes, mais mon rôle principal, c'était dev, quoi. Donc, même
D'accord.
si j'ai aimé m'amuser avec tous mes petits débarqués en short chez les clients pour pouvoir faire les entretiens, ce genre de choses, enfin, c'était vraiment trop cool, quoi.
Bah ouais, carrément.
Et du coup, parce que là, toi, tu as continué un peu dans la partie technique en allant vers différentes parties. Donc, ça se passe comment? Tu as suivi des formations? Tu t'es formé tout seul? Tu avais des mentors, t'en parlais un petit peu juste avant, qui t'ont accompagné. Comment ça s'est passé pour rester dans la technique mais continuer d'évoluer?
Alors, je pense qu'il y a l'environnement qui était propice à ça. Donc, à Delhi, c'est quand même un peu inscrit dans le carrière path. Donc, déjà, ça t'aide déjà vachement. T'as pas tracé le chemin tout seul parce que c'est plus dur. Donc, ça, c'était cool. Et ensuite, alors, on peut commencer par le mentoring. Ça, c'est vrai. Donc, on travaillait tant qu'il était encore là, Vincent, Béard, qui travaillait avec nous. Et puis, bah, lui, il avait pareil, suivi un petit peu ce chemin-là qui était. Full technique et pas du tout management, c'était pas son truc non plus. Donc je me suis dit, ah, c'est cool. Et puis, recevoir des formations, non. C'était sur le tas, tu faisais ce qui t'intéressait, il fallait juste être curieux et puis y aller par toi-même. Donc ça, c'était, voilà. Donc à partir du moment où tu discutais avec les bonnes personnes, souvent on t'orientait et puis bah, tu pouvais un peu faire de dev un petit peu à côté pour eux. Et puis de fil en aiguille, bah, ça marche. Et je dirais que le principal, c'est ton management direct. Donc aujourd'hui, sous Dailymotion, je travaille avec Mina Jandy, qui est mon manager, et qui l'est depuis 5 ans maintenant, je crois. Parce qu'au début, j'étais plus avec des. Au début, la partie ad tech Dailymotion était très américaine. C'était la plupart des personnes étaient aux États-Unis. Je crois qu'il était le seul UI en France à l'époque. Et je crois que Vincent et Mina étaient les deux seuls développeurs Go API en France aussi. Donc on était trois en tout, et tout le reste, ils étaient 5, 6, 7, 8, je crois, 8 en 8 aux États-Unis, sans compter les managers. Donc c'était voilà, c'était pas pareil. Et du coup, depuis qu'il y a eu Mina, bah Mina, il a suivi le carrière path, il a bien vu que le management, c'était pas fait pour moi, ça, il l'avait vite compris. Et puis du coup, il a poussé pour que j'aille dans ce sens-là. Donc il a corrigé mes erreurs quand je faisais des pas de travers. Et puis il a toujours fait en sorte de me trouver des projets qui allaient me faire évoluer. Donc,
Ok,
et ça,
super.
ça c'était vraiment cool. Ouais.
On a souvent plein d'exemples de managers qui sont devenus managers alors qu'ils n'auraient pas dû. Mais du coup, là, parce qu'on a quand même quelques exemples de managers avec qui ça se passe bien et puis qui comprennent les besoins des gens qui les accompagnent, quoi. Et là,
Exactement.
c'est le cas et c'est vraiment top, ouais.
Là, c'est le cas. Ouais, exactement. Avant Mina, je vais être franc, je pensais pas qu'un. J'ai toujours pensé qu'un manager, c'était un petit peu un. Je suis désolé du terme que j'ai utilisé, mais c'est un peu un branlos. Il faisait pas grand-chose. Ou bien il était là parce que c'était un très bon technicien et du coup, il essaye de faire manager, mais au final, il s'y prend pas très bien.
Ouais, il peut t'orienter techniquement, mais
C'est
peut-être
ça.
pas
C'est
forcément
ça,
sur la
mais
carrière.
sur la carrière ou même sur le reste, et des fois, les aspects humains, c'était pas son truc et tu voyais au final, il n'a pas suivi le bon chemin. C'est d'ailleurs ça qui me faisait peur. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de ressembler à ça. J'ai pas envie de faire quelque chose qui, d'une, me plaît pas. Et en plus, je fais des dégâts à côté. Donc, vraiment, ça m'effrayait. Et là, pour le coup, non, Mina, c'est vraiment tout l'inverse. Quand j'ai commencé à être avec lui, je me suis dit, ah ouais, ok, un vrai manager qui aime ce qu'il fait, ça ressemble à ça. C'est vraiment super. Parce que
Et ça fait du bien.
ouais, clairement. Et c'est ce que je dis dans mon message sur LinkedIn. Je pense que je serais pas à cette place aujourd'hui s'il n'était pas là. Ouais. Donc c'est donnant donnant, je dirais. Ouais. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool.
Et donc ta place aujourd'hui, tu me redis ce que c'est?
Principal ingénieur.
Ok. Alors, je vais refaire ma petite blague. Est-ce que c'est vers toi qu'on emmène les devs quand ils sont pas sages?
Non. Non.
Non, ok.
Non. Si
Et
on
donc,
veut.
tes responsabilités en tant que principal, ça veut dire quoi?
Alors, je suis arrivé en fonction il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il y a des choses que je dois encore apprendre, hein, et j'espère d'ailleurs. Mais
Ouais.
Mais si on retrace le, si on retrace le truc.
Attends, pardon, je te coupe. Ça veut dire que t'as pas eu à faire le job avant qu'on te dise t'auras le titre dans 6 mois ou 1 an ou je sais pas combien de temps? C'est bizarre ça. Ça se passe comme ça dans les boîtes normalement.
Alors, je l'ai fait en partie, mais je pense que j'ai pas tout fait. Je pense que je l'ai fait quand
Ah,
même. J'ai montré que j'en étais capable à certains endroits, mais
ok.
j'estime et je pense quand même qu'il y a forcément des choses que j'ai pas encore faites ou que je dois améliorer.
Ouais.
Enfin bref, il y a forcément de l'amélioration, c'est sûr et certain.
Ouais, c'est bien. Oh, pardon, je t'ai coupé,
Non,
vas-y.
c'était un bon point. Du coup, si on repart du début, quand tu démarres junior, en gros, c'est que tu sors de l'école et puis tu dois te mettre dans le bain de l'entreprise. Donc, tu es souvent, je vais dire souvent, faut pas, voilà, il n'y a pas de cas général, mais la plupart du temps, tu vas être assez peu autonome. Tu vas devoir un petit peu apprendre tes marques, comprendre un petit peu comment une entreprise fonctionne, travailler avec des collègues qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins un bon niveau. Tu vas devoir apprendre à faire avec. Tu as gagné ton premier salaire. Enfin bref, il y a plein de nouveautés. Faut que la machine se mette en route. Donc ça prend du temps, quelques années peut-être. Et puis au fur et à mesure que tu acquiers de l'autonomie, tu vas pouvoir grimper. Donc là, tu vas devenir mid. Donc mid, ça veut dire que quand même, tu es relativement autonome. Tu arrives à peu près à te débrouiller sur des tâches, on va dire mid ou un peu complexes. Tu travailles bien avec tes collègues, ça se passe bien. Tu as une bonne. T'es plutôt bon dans ton langage de prédilection. Et voilà. Et après, tu passes senior quand là, vraiment, tu as une autonomie quasi complète. Enfin, ou complète plutôt. Autonomie complète. Tu peux travailler sur des tâches complexes. Tu connais le système dans lequel tu travailles. Tu te connais ton langage quasi sur le bout des doigts. Ou en tout cas, tu sais te débrouiller parfaitement avec soit Google, soit maintenant avec un bot, mais ça, on y reviendra. Un chat. Mais voilà, en tout cas, tu es parfaitement autonome. Je trouve que l'autonomie, c'est le truc le plus important quand tu évolues au début. Et puis après, il y a ton comportement, mais ça c'est pareil. Malheureusement, c'est pas inhérent à l'évolution, mais voilà. Et ensuite, c'est là où les choses se corsent un peu. C'est que normalement, quand tu es senior, techniquement, tu n'as plus rien à prouver. C'est OK. T'es bon. On sait que tu te débrouilles bien. On sait que
Ouais, on sait que t'es bon, on sait que tu vas appréhender quelque chose de nouveau et tu vas t'en sortir.
Exactement, tu vas t'en sortir plus ou moins, mais il y a de grandes chances qu'on te donne quelque chose. Si en tout cas, si tu bosses bien et que tu aimes ton boulot, il y a peu de chances que tu t'en sortes pas. Donc
Ouais.
ça veut dire que le reste, c'est principalement ce qu'on appelle du soft skill. Et c'est là où les embrouilles commencent.
Ouais.
Et du coup, la première étape, je crois que c'est staff engineer. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, c'est staff engineer. Donc staff engineer, tu vas faire plus de mentoring. En tout cas, mentoring va faire partie de tes prérequis. Donc,
OK.
tu vas aider les copains à grandir et à grandir dans le bon sens, à les accompagner, à t'adapter à eux, parce que chacun aura un niveau différent, aura une façon d'apprendre, une perception du monde qui est différente, et tu vas devoir apprendre à comprendre comment il fonctionne. Et c'est un truc qu'on a passé, ça s'appelle le DISC. Je sais pas si tu connais où tu as quatre couleurs. Donc, tu définis chaque personne suivant quatre couleurs, rouge, bleu, vert et jaune. Et suivant la dominante de chaque personne, eh ben, ils t'apprennent comment avoir des relations avec eux, des bonnes relations avec eux.
Ah ouais, attends, c'est
C'est la.
pas rouge, c'est celui qui est un peu vénère tout le temps et qui réagit super vite, truc comme ça là.
Ouais, le rouge, c'est souvent celui qui est un petit peu.
Un peu chaud patate, ouais.
Ouais, c'est ça, chaud patate, c'est.
Hop.
Mais qui
Ouais, toi t'es quelle couleur?
d'après alors je sais moi je suis bleu full bleu
Ouais, je t'aurais bien vu bleu, ouais, effectivement, par rapport au bouquin. Parce que moi, on avait lu le bouquin avec la chef, là, Surrounded by Idiots. Qui parle de ces trucs-là. Moi, je suis.
toi j'aurais dit
Alors, de mémoire, mais je...
un peu jaune un peu vert un peu bleu je dirais mais pas rouge
Moi, je m'étais vu jaune et vert, ouais.
ouais je n'ai ouais ça me paraît bon jaune et vert.
Ouais, mais je te vois bien bleu. Une dominante bleue, en tout cas. Non, full bleu, toi?
Ah, c'est vraiment full bleu. Quand je l'ai passé, vraiment,
Full
il y a
bleu.
le reste était râlait pas que c'était le bleu qui était à fond.
Ouais.
Et puis en plus, tu peux réagir. Enfin, tes quatre couleurs peuvent être différentes en mode normal ou en situation de stress.
Ouais, non.
Et du coup, je suis bleu et vert, je crois. Pas jaune, pas rouge du tout. Mais bleu et vert en situation normale et full bleu en situation de stress.
Ah, ok, ouais, c'est marrant.
Donc c'est
C'est marrant.
rigolo. En tout cas, C'est sûrement pas une science exacte, c'est sûr, mais ça te permet au moins de comprendre comment est la personne en face de toi et surtout comment t'adresser à elle, comprendre comment elle va ressentir les choses et de par ce fait, tu vas pouvoir l'aider à grandir. Donc ça, c'est bien. C'est pas du management. C'est cette partie-là, mentoring, moi, je trouve qu'elle est bien, elle est plaisante et puis ça fait partie de ton. Je trouve que ça doit faire partie du métier au bout d'un moment. Donc,
Ouais, et ça te permet aussi de comprendre toi, comment t'es et comment tu te comportes, comment les autres sont, comment ils se comportent, et puis comment tu t'adaptes et comment les autres doivent s'adapter pour bien travailler ensemble, quoi.
exactement.
Dans le bouquin, il en parlait, enfin, le but, c'est pas d'avoir une équipe où tout le monde est bleu, parce que ça marchera pas, quoi. Il faut qu'il y ait un mélange, il faut...
Exactement. En fait, il faut que ce soit exactement. Ouais. Ben, c'est comme avoir une équipe où tu n'as que des rockstars, souvent ça ne marche pas non plus. Enfin, ce que j'appelle rockstar, que des gens qui sont hyper, hyper, je sais pas comment dire ça, mais correctement, mais qui sont vraiment. Si tu dis locomotive et puis tu as les wagons, on va dire ça comme ça un petit peu comme ça. Si tu n'as que des locomotives, ça ne va pas marcher, parce qu'ils vont aller un peu dans tous les sens. Il faut des gens qui sont plus calmes, un petit peu moins fou, un petit peu moins foufou. Et qui sont justement stabilisent un petit peu ce côté-là dans une équipe, et c'est hyper bien. En fait, ils sont. Ouais, exactement.
Ouais, bien sûr,
T'as
bien
besoin d'un
sûr.
peu plus. Donc dans Staff Engineer, tu as ça. Tu as la partie au fait qui va commencer où tu vas devoir plus interagir avec les autres équipes. C'est à toi qu'on va donner les projets qui sont inter-équipe, qui touchent la tienne en particulier. Et puis tu vas faire souvent l'architecture de tout le système actuel et futur. Donc, tu as le rôle de tech lead qui va un peu avec, souvent.
OK. Ouais.
En tout cas, pour moi, j'ai bien les deux rôles, tech lead et principal engineer. Donc, mais le staff, il a quand même un rôle de sauvegarde, on va dire comme ça, et puis de maintenance du système actuel. Il doit y faire. Ça veut dire que ça implique qu'il ait une excellente compréhension de comment le système fonctionne aujourd'hui, dans. Peut-être pas la ligne presque, c'est impossible, mais. En tout cas, dans ce moindre recoin, il doit comprendre comment ça fonctionne et quel est l'impact de chaque chose dans le système. Donc, je dirais qu'il y a ça. Et puis, bah, tu l'as compris, à chaque fois, l'état d'avant, c'est enfin comment l'évolution, c'est toujours l'état d'avant plus des trucs en plus. Et ben, bah, principal engineer, ça comprend tout ce qu'il y a dans staff. Et en plus, tu viens mettre ça à l'image de toute la boîte. Donc maintenant, c'est un peu ça. Même si je suis attaché à l'équipe AdTech, je dois le côté mentoring, je dois le faire non pas qu'avec mon équipe, mais avec les autres. Quand je travaille sur des projets qui sont pas du tout dans mon scope, comme ça a été le cas ces deux dernières semaines, et ben quand je vois des choses qui vont pas, je dois les corriger. Voilà. Donc je vois un fonctionnement qui s'est pas bien passé, je vois qu'il y a, je sais pas, un flux de travail qui est pas optimisé. Bon ben faut aller casser le truc et le remettre correct. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça te fait voir des aspects du monde de l'entreprise que tu n'avais des fois jamais vu. Donc ça, c'est bien. Parce que souvent, tu es resté dans ton petit monde à toi. Moi, je suis resté dans la tech pendant très longtemps. Et aller voir les autres équipes, comment ça fonctionne, même si ça nous arrivait des fois d'avoir des meetings entre nous, mais d'y aller pour de vrai et d'être dans leur basket, picoder avec eux, et ben, ça te fait voir un autre aspect des métiers. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
Et vous êtes combien dans la partie, enfin dans ta partie à toi et puis plus globalement côté tech chez Dailymotion?
Alors, à la tech, on doit être. Alors, attends, j'essaie de compter correctement. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si je me compte dedans, on est 6 devs sur la partie Golang. Donc, en gros, la tech, elle est cassée en trois morceaux. Tu as une petite UI, enfin, une petite, non, dans les conséquences, mais tu as une belle UI qui fait back-office pour Daily. Parce qu'en fait, notre système est utilisé principalement par des gens de chez nous. Nos utilisateurs, en fait, sont des gens de chez nous. Donc voilà, donc ça, le back-office sert à configurer l'ensemble du système de publicité. Ensuite, tu as l'équipe API en source globale qui sont une équipe qui font que du Go toute la journée. Donc nos petits gophers. Et puis, donc là, je fais plus partie de cette équipe-là, je fais un peu du UI, un peu d'API. Et on a une dernière équipe qui est une équipe qui est principalement C++, enfin qui font que du C++, ils sont trois. Et là, ils font le moteur, donc ça s'appelle un exchange. Donc c'est ce qui sert à faire c'est ce qui sert à récupérer les publicités, à faire vraiment des auctions et des bids au travers d'un système. Et ça, c'est écrit en C++ aujourd'hui.
Ok. Ils ne sont pas encore en train de tout réécrire en Rust comme tout le monde là pour faire. Enfin, comme tout le monde. Comme une
C'est
toute petite communauté, parce qu'en fait, personne n'en fait en vrai.
trop gros pour tout réécrire, ça
Ouais.
serait joli. Le C++, c'est. Alors,
C'est historique le C++ ou c'est un choix qui a été fait?
c'est historique. Alors, c'est facile de
Ouais.
retrouver le match quand il est fait, bien sûr, hein, mais si je devais si on devait prendre une enfin ouais, si on devait faire on devrait refaire le choix aujourd'hui et qu'il était entre mes mains, clairement je prendrais pas C++. Voilà. Parce que ça emmène un certain lot de complexité qui est que bah, déjà les équipes sont scindées, donc elles peuvent pas trop s'aider entre elles, ce qui est dommage. Ensuite, recruter des gens qui vont C++, c'est quand même assez
C'est
compliqué.
dur.
Le dernier,
Ouais.
il y en a un qu'on a recruté il y a pas, il y a, il y a un an ou deux maintenant, mais on a mis un an à le recruter. On avait besoin de un an. C'est très très long. Très très long. Donc on n'a pas envie qu'il parte. Donc voilà. Et puis bon voilà, ça demande une maintenance, ça demande quand même pas mal de choses. Alors attention, hein, ça n'enlève rien à ce qui est écrit aujourd'hui. Ça n'enlève rien aux ingénieurs talentueux qu'on a chez nous, nos
Ouais,
trois.
bien sûr.
Mais c'est vrai que ça amène son lot de, voilà, de complexité. Si on devait les régler, enfin, je pense que ça serait cool, ça aurait été cool qu'on le fasse autrement, mais bon, c'est pas moi qui ai pris la décision à ce moment-là. Donc on aurait peut-être fait autrement.
Ouais.
Je me souviens que Vincent était non plus était pas d'accord, parce que lui était là quasiment au début. Lui était quasiment était
OK.
carrément d'accord à ce qu'on l'écrive en C++. Mais malheureusement, pareil, lui, il n'avait pas le choix.
Ouais.
En Go, ça aurait été parfait. On aurait tout fait en Go, c'était bon.
Ouais, comme ça, un des langages principaux que vous avez.
Ah ouais, c'est vraiment. Donc ouais, donc on est à peu près, je dirais, j'ai dit quoi, 2, 4, 6, 8. Donc on doit être à peu près 12 en comptant les managers. Ensuite, on a une équipe qui fait que du JS, donc c'est la partie Player Ads, donc c'est le module qui va appeler justement Léo et qui va jouer les pubs correctement sur le player Dailymotion, ce genre de choses. Donc là, ils sont 4 personnes supplémentaires. Donc on est 15 en tout, quasiment.
OK.
Voilà. C'est une belle équipe déjà, en comptant les managers. Sachant que les managers chez nous, ils codent pas ou assez peu. Donc tu peux en enlever.
OK.
Tu peux en enlever deux, donc ça fait 10 ingénieurs qui travaillent tous les jours. Et en tout et pour tout, à Delhi, alors je ne sais plus combien on est d'ingénieurs, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais qu'on est en tout à Delhi, on est 370, je crois. Donc voilà, en tout et pour tout. Donc tout.
Ok. Et, attends, je regarde ma liste de questions, je sais plus où on est. Ah si. Et quoi les qualités pour être un bon dev ou une bonne dev?
Vache.
On a déjà parlé de quelques trucs, mais la curiosité,
Ok,
tu vois, ce
ouais.
genre de
Je pense que c'est
choses-là.
le plus gros truc, la curiosité, parce que super important.
Ouais.
Alors, celui-là, je voulais le dire dans les conseils, je crois, mais on peut dire dans les qualités. Je dirais que le fait d'être humble, c'est vachement bien, parce qu'on pourrait. On pourrait vite croire qu'on peut faire énormément de trucs, et c'est vrai, hein. Notre métier est un peu grisant pour ça. Quand on crée quelque chose et que ça se met à tourner, et que ça tourne bien comme il faut, c'est vrai que ce plaisir, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Mais il ne faut pas oublier que ben, y a les copains à côté, il faut être cool avec eux, il faut savoir dire, bon, ben voilà, il y a des choses que je ne sais pas. Faut écouter les autres, faut pas aller trop loin, même si on évolue, même si on est bien meilleur que les autres, c'est pas une raison. On a toujours à apprendre de celui qui est à côté de nous, même si on le
Ouais, et puis
considère moins
en plus
bon.
on peut être meilleur maintenant, mais ça peut vite changer en plus, hein, donc
Exactement. Et en plus, c'est comme on disait au début, notre métier il est tellement large. Si tu veux dire, si tu es un dev et que tu veux faire un peu de tout, oh, il y en a tellement de choses à apprendre, puis il y a tellement de choses nouvelles par jour que faut rester un peu les pieds sur terre. Et j'en ai vu plein des ingénieurs qui étaient talentueux et qui ont un peu pris la grosse tête et ils étaient imbuvables, ni regardables, ni écoutables. Et tu te dis, bon, bah, c'est vraiment dommage. Ils avaient à apporter et au final, ils n'ont rien apporté. Donc,
Ouais. En plus, parce que les qualités du dev, il y a les qualités techniques, mais il y a les qualités pas
exactement.
techniques. Et c'est ces qualités pas techniques qui font que tu peux travailler en équipe parce qu'on travaille rarement tout seul. Et enfin, si tu peux pas travailler en équipe parce que
Parce que t'as
plein de
pas confiance.
raisons, bah, ça fait que t'es pas un bon dev, quoi.
Exactement. C'est exactement ça. Bah, d'ailleurs, pour illustrer le truc, quand on fait passer des entretiens, donc là, les ingés que j'ai côté API, à part un, je les ai tous eus en entretien, parce que c'est quasiment tous que des nouveaux, entre guillemets, qui sont.
Ouais.
Et ben, j'ai toujours privilégié le fait que c'était des bonnes personnes avec qui je sentais que le feeling allait passer, plutôt que des mecs qui
Le
avaient.
labo technique, ouais.
Technique. Et il y a un exemple que j'ai en tête. J'ai deux candidats qui passent la même journée, un matin à l'après-midi. Le premier du matin, une brutasse. On a des tests techniques qui sont, voilà, qui sont un test d'algo et puis après on a des tests en Go à faire. Et vraiment, il me détruit le test, mais en rien du tout. Vraiment, je crois que c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi fort. Je me suis dit, ah ouais, trop bien. Et ensuite, il y a l'entretien, donc ça, c'est l'entretien vraiment purement technique. On discute un petit peu, puis je sens que le feeling n'est pas parfait.
Ouais.
Et on refait une discussion plus tard qui est plus sur son évolution de carrière, ce qu'il a envie, comment il veut que ça marche, c'est quoi l'attitude à Dailymotion, etc. Et là, je vois que ça colle pas, que vraiment, humainement, ça va être dur, il va être dur à gérer. Et là, il m'a dit, l'après-midi, je vois quelqu'un qui est moins fort, mais qui passe le test quand même, mais moins vite, moins fort que le premier. Et par contre, humainement, tu te dis, ah ouais, mais j'ai envie de travailler avec ce mec, il est cool.
Ouais.
Et ben, le choix est vite fait. Je veux dire, je préfère largement quelqu'un qui est moins bon, mais à qui humainement ça se passe bien, plutôt que
Et qui
l'inverse.
peut progresser en plus.
Exactement, parce que corriger un manque technique, ça se fait relativement bien. Corriger un manque humain, c'est très très compliqué.
Compliqué, c'est compliqué.
Donc je préfère largement dépenser du temps pour le manque technique plutôt que le manque humain.
Ouais.
Donc je pense que ouais, dans les qualités du dev, je dirais que dans la technique et la curiosité, le reste, ça s'acquiert. Un peu de temps, Internet et un ordinateur, je pense qu'on arrive à tout faire.
Ouais.
C'est plus, je dirais que si vraiment on veut sortir du lot, je pense que c'est le côté humain qu'il faut travailler le plus, c'est voilà,
Ouais.
écouter les autres, être humble, aider les autres, vouloir travailler en équipe, et puis penser en équipe, je pense que c'est le principal. Ouais.
Ouais. Y a un truc que moi je recherche vachement. Notre équipe, elle est toute petite, hein. Nous, on est trois devs. Il y a le CTO qui fait dev un petit peu, et puis un contracteur. Que des gens adorables, que des gens qui sont bons ou qui deviennent bons parce qu'ils apprennent à fond. Et une des qualités que moi je recherche vachement quand on discute avec eux, c'est mais de pouvoir chercher par eux-mêmes avant de demander, quoi. Parce que c'est OK de ne pas savoir, mais si tu ne sais pas comment tu réagis, est-ce que tu vas venir voir quelqu'un toutes les 5 minutes parce que c'est des choses que tu ne comprends pas? Est-ce que tu vas essayer, faire un test, faire le truc, vérifier après avec une personne ou aller voir la personne en disant, voilà, j'ai fait ça, je suis bloqué, qu'est-ce qui se passe? Donc
Ouais,
cette envie de recherche et de vouloir apprendre à faire quelque chose. Parce que savoir apprendre, c'est pas donné à tout le monde. C'est les choses que moi je recherche vachement enfin, parce que ça colle avec notre petite équipe, quoi.
non, je comprends. Bah, c'est un peu pareil pour nous aussi, ouais. Mais c'est ça, je le rends dans l'autonomie d'une certaine façon, mais oui, c'est vrai que c'est bien. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on a pas un ou une, on a une femme aussi avec nous, on n'a pas une ou un qui déroge à la règle. Ils sont tous, tu les lances sur un sujet, c'est parti. Je sais d'avance, avec certitude, que s'ils viennent me voir, me poser une question, c'est que vraiment, ils n'ont pas trouvé, quoi. Donc, il y a une relation de confiance qui se crée, ce qui est encore plus agréable pour travailler. Et j'ai vraiment, ouais, c'est trop cool de travailler avec eux tous les jours. Et puis comme ils sont, et en fait ça fait partie, enfin ils ont contribué d'une certaine façon à mon évolution, parce que comme ils sont bons dans leur domaine et qu'ils ont bien appris et compris, ben, en fait ça me dégage du temps pour moi aller faire des projets qui sont des fois à l'extérieur de notre équipe, et en fait ben, voilà, c'est bien, donc c'est vraiment
Bien
cool.
sûr, ouais. C'est des gens qui sont principalement basés autour, enfin, dans ta région, et qui vont au bureau, ou il y a des gens qui sont un peu partout?
C'est trop marrant parce que je crois qu'on a quasi. Alors attends, on en a un qui vient de Dijon, qui fait l'aller-retour tous les jeudis.
Ouais. À qui on fait des gros
On lui fait des gros bisous, Christophe Birou.
bisous?
J'ai un autre collègue qui est basé à Lille et qui vient, je
Ok.
dirais, 3 fois par an maximum. Donc, il fait que
Ok.
du travail. J'ai une autre de mes collègues qui est repartie en Inde. Elle est indienne d'origine et donc, du coup, elle est repartie en Inde pour de bon. Donc, on ne la reverra pas tout de suite, à part quand elle viendra en France. Voilà. On a deux autres personnes qui sont, trois autres qui sont dans Paris. Donc là, c'est plus facile.
Ok.
Je les vois, mais je les vois pas plus pour autant, parce qu'au final, ils font du télétravail tout le temps. Donc,
Ouais.
en fait, on se voit pas beaucoup. Mina aussi est sur Paris, et moi aussi, enfin, en tout cas, alentour. J'essaie d'aller au bureau tous les jeudis. Et Mina, il vient aussi pareil tous les jeudis, je crois. Donc, enfin, souvent. Donc, on se voit à ce moment-là.
Ok.
Le jeudi, c'est le jour des retrouvailles. Mais on se voit, de toute l'équipe dont je t'ai parlé, je crois qu'on est trois.
Ouais, ok. Et comment vous faites pour regarder un peu cette culture alors que tout le monde est à distance?
Alors ça
Vous avez
c'est
des petits événements, vous avez des petits événements, un channel sur un canal, pardon, sur je sais pas quel outil pour partager des trucs.
Alors on discute pas mal sur Slack, c'est souvent comme ça, mais c'est vrai qu'on
Ouais.
n'en a pas beaucoup, parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon,
Ok.
à pas mal bosser pour être franc, et c'est vrai qu'on n'a pas ces petits moments de discute. Alors ça nous arrive de faire ce qu'on appelle le café croissant du vendredi. Donc en gros, chacun prend sa petite tasse de café, son petit croissant ou ce qu'il a envie. Et puis on passe une demi-heure, 1 heure des fois à discuter de tout et de rien.
Ok.
Ça nous fait du bien. On le fait, je dirais, en vrai, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais avant, on le faisait une fois par mois et c'était pas mal. On racontait des petits trucs, voilà. Mais sinon, en vrai, ouais, c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup.
Ouais, parce que
La confiance est là, donc c'est ça qui est rigolo.
ouais. Ouais, nous au boulot, alors le CTO, lui, il est à Marseille, le contracteur, il est à Marseille aussi, et puis les deux autres devs, il y en a un en Grèce, un au Portugal. Donc quand je vais au bureau, c'est plutôt pour voir les gens qui ne sont pas côté technique, à part les petits stagiaires qui sont souvent plutôt sur le coin. Ouais, on a envie d'essayer de pousser un peu ces trucs de partage. On a commencé un peu dernièrement. On le faisait pendant un tout petit peu au début. Là, on essaye de relancer. On verra comment ça tient. Mais ouais, ça fait du bien de se voir un petit peu plus, plutôt que de s'appeler juste pour parler boulot, quoi. Ouais, ce fameux meeting là, nous on l'a mis mercredi, ça s'appelle Control Alt Rebase parce qu'on a toujours cette blague des gens qui galèrent à faire des rebases. Ouais, c'est quand même orienté tech parce que c'est que les gens qui font partie de la tech dedans, mais c'est plutôt un temps pour prendre un café ensemble, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de discuter un petit peu de temps en temps,
Ouais.
puis parler d'autres choses, ouais. Au moins pour comprendre l'autre.
Ouais. Ouais, c'est ça. Vous n'allez pas tous vous faire virer pour vous faire remplacer par ChatGPT et Claude et tout ça?
Me fait tousser.
Oh, pardon.
Alors, c'est un sacré truc, les LLM, ou en tout cas tous les chats GPT-like. Je vais être franc tout de suite. Moi, je suis un peu récalcitrant. Je vais expliquer un peu pourquoi, mais vraiment, je l'utilise pas. J'utilise pas du tout, pas
À
ouvert.
zéro?
Zéro, zéro. Vraiment,
Ok.
j'ai pas pris le pied. Alors, des fois, je me dis, mince, je deviens un vieux con, et vraiment, je veux pas. Donc là, je suis en train de suivre. Enfin, il y avait l'occasion de faire une formation AI à Sphere, pardon, à Dailymotion, et je me suis dit, bah tiens, étant récalcitrant, je vais y aller. Ça va me faire du bien. Parce que ça se trouve, on va me montrer des cas d'usage où je me dis, ouais, c'est quand même pas mal. Donc je suis vraiment pas pour. Mes collègues l'utilisent autour de moi, ma femme compris. Je crois qu'il n'y a pas un de mes collègues qui l'utilise pas. Je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Alors de là, ce qui nous remplace, ça, j'y crois pas. En tout cas, pas tout de suite. Je pense qu'il va y
Ouais.
avoir encore du temps. Il y a encore largement du temps. Je dirais que la méthode qu'on utilise aujourd'hui pour avoir un chat GPT, c'est de la probabilité. Il comprend pas ce qu'il écrit, on va être franc tout de suite. Il comprend pas ce qu'il.
Ouais.
C'est normal, c'est pas fait
Ouais.
pour. Le jour où on changera de technique, là par contre ça va avoir le coup. Je sais qu'il y avait une discussion de Yann LeCun, donc grand chercheur français qui travaille à Facebook, qui est une pointure parce que c'est lui qui a remis en route les réseaux de neurones, il me semble, de mémoire.
Ouais.
Donc lui c'est vraiment quelqu'un à qui que j'aime beaucoup écouter, puis qui a plutôt les pieds sur terre, qui est pas comme les Elon Musk et tout ça, qui sont très dans balancer des trucs, des buzzwords pour que ça fasse monter Bitcoin, quoi. On est dans un mec qui a les pieds sur terre et puis qui sait de quoi il parle. Et lui dit lui-même qu'on va arriver à un certain plafond de verre avec la technique qu'on utilise aujourd'hui et qu'on va devoir passer à une autre technique pour aller encore plus loin. Et je pense que quand on aura pété ce plafond de verre, là on pourra commencer à se gratter la tête et à se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais de là ce qu'on remplace aujourd'hui, je pense que ouais.
On a encore le temps.
Ouais. Cela dit, ça change quand même notre boulot au quotidien. C'est quand même une révolution je pense qu'il faut pas louper ou qu'il faut pas prendre juste, enfin qu'il faut pas laisser de côté. Il va y avoir des changements il va falloir le prendre en compte. Le nombre de trucs où les gens me disent, tiens, j'ai essayé de coder ça et ça marche pas, et ça se voit vite quand ça sent le ChatGPT, et là je suis vraiment pas content. Bon. J'ai un exemple de code tout bête. C'est pas quelqu'un de mon équipe qui vient me poser une question. Donc c'est du code Python, et il me dit, c'est bizarre, ça marche pas, j'arrive pas à faire que ça
Bah,
fonctionne.
c'est Python, c'est Python.
Et je regarde, puis je lui dis, bah ouais, mais t'as vu le message d'erreur, ce qu'il te dit? Il me dit, bah non, il te dit que ton champ là dans ton objet, il n'existe pas. Donc c'est un objet de config qu'il utilise pour lancer un process. Et
Ouais.
il te crache qu'il ne connaît pas le truc. Donc, tu es sûr? Mais il dit, bah ouais, j'ai vérifié. Puis t'as vraiment vérifié dans la doc? Mais il dit, non, c'est
T'as
ChatGPT.
vérifié avec le doigt.
Ok, d'accord, ChatGPT. Maintenant, on va aller vérifier la doc. Donc on a pris vraiment la fonction. Donc c'est une fonction de Boto 3, donc un truc, enfin le truc pour AWS, pour interroger AWS en code Python. Et en effet, on regarde l'objet de config, et dans l'objet de config, le champ n'existe pas. Donc je lui dis, bah en fait c'est juste que ChatGPT l'a halluciné. Mais c'est dommage, il fallait juste
Oui.
vérifier. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu. Je trouve
Ouais.
ça dommage. Donc faut pas tout le temps tout prendre pour argent comptant. Mais cela dit, c'est peut-être une manière de faire de la recherche Google, parce qu'on ne sait jamais tout tout de suite. Donc il faut toujours qu'on fasse des recherches. Ça peut être une manière de faire de la recherche Google en plus rapide, peut-être. Voilà, c'est comme ça que je le vois pour l'instant.
Ouais.
Mais
Ouais, moi quand j'étais Chief Guillaume Officer, parce que j'avais un stagiaire qui s'appelait Guillaume, et lui, avec son école, il avait, je sais pas quoi, copilote gratuit ou quelque chose comme ça. Ouais, il m'appelle et je vois qu'il essaie de débugger un truc. C'était du copilote qui lui a sorti. Et il passe plus de temps à débugger le truc alors qu'il aurait écrit lui-même depuis le début. Ça aurait marché, il l'aurait fait vachement plus vite, quoi. Alors, c'est peut-être pas aussi avancé que maintenant, hein, parce que ça a aussi évolué. Hein, mais. Après, moi, j'utilise pas mal. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai une struct Tango qui doit correspondre à une table SQL. Je mets ma struct dans ChatGPT ou n'importe lequel. Je lui dis, voilà, je veux une table SQL qui correspond à ça. Parce que moi, j'ai pas de valeur ajoutée à
Oui.
copier les noms des champs et mettre un type derrière. J'ai de la valeur ajoutée à relire le truc et à corriger pour que ça corresponde bien à ce que moi, je veux vraiment. Mais parce que quand t'as un objet à faire, tu l'écris ta table SQL, mais quand t'en as 15, bah tu t'en as vite marre, quoi.
C'est peut-être,
Et
t'as raison, ouais.
sur ce genre de raccourci-là, je trouve que c'est assez utile, quoi.
C'est peut-être là où j'ai pas pris le pli, ouais. J'ai toujours tendance à me débrouiller enfin à me dire, non, vas-y, je vais le faire tout seul.
Ouais.
Peut-être que je devrais pas faire ma tête de cochon et à y aller un peu plus pour qu'il me gagne du temps, au final. Ouais.
Par exemple, là, le dernier projet qu'on a sorti, là, le cyberpeacetracer.ngo, il y a une version Europe de ce truc-là. Et bah, c'est l'Europe, donc il faut traduire dans 24 langues. Mon fichier de traduction, on n'a pas le temps d'avoir des
Ah,
traducteurs dans les 24 langues.
ouais, mais là du coup c'est plus du dev, donc ça me va, entre guillemets.
Ouais. Mais c'est quand même un raccourci que moi j'utilise dans le projet pour faire une tâche qui va prendre du temps et en plus qui va me saouler, quoi.
C'est ça. En fait, tout dépend. En fait, t'as raison, parce que tout dépend de ce que tu vas lui demander. Si tu lui demandes des trucs qui sont petits et assez simples, genre la transcription d'un objet Go en une table, bon, tu te dis, bah, c'est vrai que comme tu as dit, hein, t'as raison, c'est que t'as rien à apporter là-dessus, donc autant le laisser faire. Si je reprends l'exemple que je t'avais donné, bon, de là à faire pisser un fichier de code complet et t'amuser à le débugger, oh là, l'enfer, enfin, je veux
Ouais,
dire,
non, c'est l'horreur.
pas marrant
C'est
quoi.
l'horreur.
Ce qui me fait un peu peur, alors c'est peut-être mon côté vieux, mon début de côté vieux con, que je vais corriger, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que ma crainte, c'est que ça ne t'aide pas si tu es un junior ou un mid, même senior, peu importe, en fait, peu importe le niveau de l'ingénieur, c'est que j'ai peur que ton processus d'apprentissage soit pas aussi bon qu'il n'était et que du coup tu n'apprennes pas ce que tu as fait. Parce que si c'est posé 50 fois la même question à ChatGPT, bah c'est quand même dommage parce que tu as un cerveau qui est quand même vachement cool et quand tu l'as un petit peu entraîné à avoir de la mémoire, bah c'est quand même vachement pratique quand tu as une discussion ou le cas le plus typique que je pourrais te donner juste après, c'est quand tu as un problème en prod, bah là ChatGPT, il a pas le temps, là, on n'a pas le temps de ChatGPT, là faut réagir vite. Donc ben
Ouais.
bah,
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors moi j'utilise les trucs de chez JetBrains, IntelliJ. Et avant, tu sais, t'avais le truc machin pour faire certains refactoring automatiquement. Maintenant, ils te proposent de faire un peu le numéro un, c'est parce que j'ai le JetBrains assistant dedans. Maintenant, les premières options, c'est vas-y, je vais corriger ton truc avec une IA. Mais laisse-moi refactorer mon truc un peu comme je veux, quoi.
ouais, c'est ça.
Surtout que le travail un peu multi-fichier, trucs comme ça marche pas encore de ouf, quoi. Et ça, on a encore besoin, nous, d'être là et de comprendre l'architecture de notre projet pour savoir où est-ce qu'il faut bien mettre les trucs et tout. Et là où moi, j'avais trouvé que ça marche plutôt pas mal, c'est sur des petits composants, bah, faire des tests unitaires, ça peut être cool, quoi. Bon, faut tout le temps les corriger parce que, évidemment, il a appris avec geste ou je sais pas quoi, et puis toi, bah, tu as vitesse sur ton projet, et puis il connaît pas encore trop, donc y a tout, mais y a toujours des trucs à corriger. Et c'est là où les juniors et même autres, comme tu dis, il faut qu'ils fassent attention parce que moi, je le vois et je peux corriger. Mais le junior ou pas, il sait pas que il faut remplacer la librairie, etc., ou corriger des trucs. Bah, il va passer trop de temps à lire les messages d'erreur, à rechercher sur ChatGPT c'est quoi le message d'erreur, à lire une fausse réponse parce que En fait, on dit souvent que ChatGPT il hallucine, mais en fait il hallucine tout le temps.
Mais en
Et des
fait,
fois il se trompe pas.
oui.
Je commence à le voir plutôt comme ça, moi,
Mais en fait,
pour être vraiment prudent avec tout ce qu'il raconte, quoi.
ouais, mais en fait, c'est de la proba. Donc il se dit, bah tiens, il y a de grandes chances que le mot d'après ou la lettre d'après, ça colle bien. Il écrit comme ça, il génère son prompt,
Ouais,
enfin, sa
ouais.
réponse comme ça. Et en fait, je l'ai un peu essayé bon, récemment en me disant, allez, faut que je casse mon idée, que je l'essaye un petit peu sur des cas pratiques.
Ouais.
Souvent, je travaille toute la journée et le soir, je me dis, tiens, je vais lui poser des questions, des trucs que j'ai déjà la solution que j'ai trouvée moi-même, voir un petit peu comment il répond. Et des fois, je me dis, ah ouais, bah, j'ai bien fait de pas te demander parce que t'es nul, quoi. Enfin,
Ouais, c'est clair.
il me dit, ah ouais, tiens, tu pourrais utiliser tel lib. Donc, j'avais un problème d'optimisation. Tu pourrais utiliser tel lib Python pour faire ça. Ah bah cool, je la connaissais pas. Donc là, il m'a appris un truc, je suis content. Et en fait, dans l'exemple de code qu'il me donne, il n'y a pas la lib. Il n'y a pas l'import, il n'y a pas l'utilisation. Je me dis, bah. Et en
Mais
fait,
pourquoi?
je lui ai dit, c'est bien, mais il n'y a pas la lib dans ton exemple. Il m'a dit, ah oui, pardon. Et là, il l'a remis correctement. Je me dis, bah, c'est marrant, mais non.
Ouais. Alors
Donc, voilà.
c'était pas du code, mais moi j'ai vu un exemple avec Ayako, une question sur du français et un truc d'accord à la con en français parce que c'est toujours le bordel. Et j'avais demandé à ChatGPT, alors c'était 3 ou 3,5, je ne me rappelle plus à l'époque, et puis à Claude ou Gemini ou je sais pas quoi. Et ChatGPT, il a fallu que je pose 3 questions avant qu'il me donne la bonne réponse, alors que les autres, la réponse avait été plus immédiate. Donc en plus,
Oui, en plus
En
de la
fonction de, enfin, en plus, il faut en tester plusieurs pour savoir lequel correspond
faut écrire
vraiment à
ton
tes attentes.
ah, faut écrire ton prompt correctement en plus, parce qu'il y a quand même
Ouais,
des
tu
temps
passes
à écrire.
plus de temps à écrire ton prompt qu'à écrire ton code. Enfin.
C'est ça. Donc pour le développement, vraiment, pour l'instant, je reste sceptique.
Ouais.
Pour le reste, je pense qu'il y a pas mal de. Il y a beaucoup d'applications. Je dirais que le développement, on n'est pas remplacé tout de suite. En tout cas, moi, je ne
Ouais.
suis pas craintif. Vraiment de
Moi non
ça.
plus, moi non plus, moi non plus. Et même si j'ai peur pour un, enfin, on le voit maintenant avec vibe coding, j'ai quand même un peu peur pour les petits jeunes là qui pourraient être malheureusement considérés comme remplaçables par ce genre d'outils.
Ils vont être considérés comme remplaçables, mais c'est toujours pas ça. Je veux dire, quand on voit notre métier aujourd'hui, le métier d'ingénieur, c'est en tout cas de développeur, c'est pas que du code. On fait plein de choses de plus à côté. Et rien que discuter avec le product owner ou l'utilisateur d'un bug qu'il a ou de la spec qu'on t'a donné, parce qu'il y a des specs, des fois, faut quand même avoir les deux yeux ouverts pour la lire. Et ben de là, ce que ChatGPT la comprenne correctement sans faute. Et tout ça, et qui te pisse le code derrière, je pense qu'il y a encore des belles années devant nous
Y a
pour
encore
construire.
du moment,
En
ouais, c'est clair.
tout cas, pour l'instant, je pense que c'est très bien dans certains petits use cases, voire même dans des trucs de recherche ou des trucs comme ça, qui peuvent être intéressantes. Je pense que pour la recherche, il y a des cas d'application qui sont très intéressants. Si tu peux lui faire explorer une partie de ton idée pour voir où ça t'emmène en plus rapide, pourquoi pas? Je pense qu'il y a plein de choses, mais le développement, en tout cas le code pur, je pense qu'on est tranquille encore un petit peu.
Ouais. J'avais noté une question après, puisqu'on parlait un peu des juniors qui vont se remplacer. Et du coup, qu'est-ce qu'on conseille aux petits jeunes ou aux petits moins jeunes pour devenir des chouettes devs?
Ça revient un petit peu avec ce que je disais, avec les qualités, mais je vais redire le même encore, mais c'est vraiment ce côté-là, le côté humble et ouvert aux autres. Je pense que c'est de mes maigres 12 ans d'expérience, je dirais que c'est le plus important que j'ai pu voir. Les ingénieurs pour qui j'ai gardé un profond respect et pour qui j'ai de la mémoire, c'est ceux qui étaient et talentueux et surtout ouverts aux autres et qui écoutaient,
Ouais.
comme Tom Otiti, comme Romain Maton, comme Vincent. Euh,
Ouais.
c'est ceux-là que je garde en mémoire et j'ai oublié ceux qui étaient vraiment des brutes purs et durs, mais qui étaient. Bah, qui était bon à travailler dans une cave, hein, on va être franc.
Ouais,
Là,
ouais,
je les ai oubliés. C'est pas ceux-là que j'ai gardé à l'esprit. Donc,
ouais.
je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être bon et être aussi une bonne personne. Et bon, ça s'acquiert plutôt rapidement. Être une bonne personne, c'est plus difficile. Donc, ça demande plus de travail.
Ouais.
Donc, je dirais qu'il faut mieux commencer par là. Voilà. Il faut mieux commencer par là. Ça, c'est le truc. Dans les autres conseils. Faut s'éclater, faut aimer ce qu'on fait. Je dirais que ça, c'est le truc principal. Faut pas s'ennuyer. Si on s'ennuie dans un travail, on a encore la chance dans notre métier de pouvoir trouver du boulot assez facilement. Que ce soit en plus avec le télétravail, que ce soit en France ou en Europe ou même dans le monde. Je prends l'exemple de ma collègue qui est en Inde. Bah, voilà, travaille quand même pour une boîte française Dailymotion. Je veux dire, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est quand même. Bon, on n'aurait pas pu, je pense, l'imaginer avant Covid. Je pense que c'était compliqué.
Ouais, c'est clair.
Donc, il y a plein de choses qui ont changé de la bonne façon. Et en fait, ouais, si vraiment on s'ennuie, que le boulot, on y va à reculons et qu'on n'est pas bien dans notre peau, non, il faut s'en aller. Il faut avoir
Il vaut mieux changer,
le courage de dire stop et de dire allez, c'est bon, on va chercher ailleurs. Faut pas avoir peur. C'est forcément, ça fait un peu peur quand même, hein, de se dire bah ouais, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Mais faut y aller. Franchement, ça vaut pas le coup de perdre du temps et de s'ennuyer dans un boulot. Parce qu'au final, on y passe 8 heures par jour minimum. On dort 8 heures, donc il nous reste plus le temps que ça pour les aspects perso.
Ça se vite.
Sachant qu'il y a les repas, et encore plus, comme tu le sais très bien, quand on a un enfant, ça en consomme encore plus. Donc, et puis il y a la vie de famille, enfin, il y a plein de choses. Donc, ces 8 heures de boulot, faut qu'on se fasse plaisir. Il y a des hauts débats, bien sûr. Pas toujours être la Dolce Vita, mais ouais, faut pas s'ennuyer. Donc vraiment, si vous voyez un boulot qui vous plaît pas, que vous n'êtes pas bien, que vos collègues c'est des abrutis, allez hop là, une petite démission et puis on va chercher ailleurs. Donc on peut se le permettre pour l'instant, donc autant l'utiliser.
Ouais.
Donc je
Okay.
dirais.
Et du coup, dans 10 ans, quand on se fera remplacer par la prochaine génération d'IA, toi, tu vas faire quoi?
Je sais pas, bonne question. Ben, il faudra toujours quelqu'un pour configurer les IA, je dirais. Et puis, va falloir toujours quelqu'un pour vérifier que ce qu'ils ont généré, c'est toujours bon. Et puis, je pense que, ouais, de là à ce qu'on travaille plus du tout, je pense qu'on a encore un peu de temps.
Encore un peu de temps,
Il y aura d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera? Je sais pas, c'est loin quand même.
c'est là parce que là ils parlent tous de voilà, dans 1 ou 2 ans on se fait remplacer. Moi j'y crois super pas. Dans 10 ans, je sais pas quoi, mais.
Dans 10 ans, c'est pas la même. Dans 10 ans, c'est peut-être pas la même, mais on trouvera d'autres métiers. Je pense que notre métier va juste évoluer.
Ouais. C'est ça. J'avais fait mon petit calendrier de l'Avent, des trucs de l'IA, parce que j'adore parler des choses que je connais pas vraiment. Les métiers vont changer. C'est pas on va plus travailler, c'est on va travailler différemment. Enfin, moi, j'avais suivi un Coursera, je crois que c'était Coursera, où il prenait l'exemple de la personne qui fait du marketing. Bah, peut-être qu'une partie de son boulot va être remplacée par une IA, genre créer un contenu. Enfin, bon, il faut relire, mais bref. Mais du coup, ça va lui laisser du temps pour faire d'autres choses. Bah, étudier des tests AB pour voir, genre, est-ce que je sers plutôt tel contenu ou tel contenu? Enfin, ça va diversifier un peu les capacités et transformer un peu le travail. Alors, c'est notre Didier National qui disait, dans le futur, il y a les gens qui vont travailler avec l'IA et il y a les gens qui vont se faire dépasser. Quand ça va devenir vraiment performant, ça va vraiment transformer les métiers. Et ceux qui vont travailler avec, ça va, ils vont continuer à avancer. Ceux qui vont travailler sans, ils vont se faire dépasser par ceux qui travaillent avec. Alors aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore le cas. Enfin, tu vois, ce n'est pas avec mon raccourci de créer une table SQL à partir de ma structure Tango avec ChatGPT que je vais dépasser quelqu'un qui ne travaille pas avec. Mais en pensant plus loin, c'est pour ça que je me force un peu de temps en temps à travailler avec ces trucs-là, parce que, bon, déjà par curiosité, mais je veux savoir où ça va.
Ah ouais, je comprends. Non, mais t'as raison. Et c'est ça que justement je veux pas louper pour pas être has-been. Et au final, c'est comme toutes les révolutions. Si tu prends la révolution industrielle, bah, c'était la même chose. Quand on était dans les champs de patates et puis avec notre petit râteau, c'était cool. Quand on a commencé à avoir les tracteurs, bah, c'était
Les
pas chouette.
tracteurs, ouais.
Et puis, bah, si tu prends notre branche à nous, bah, quand on a eu la révolution à Internet, bah, ça a quand même changé pas mal de choses. Et puis l'IA en fait est une révolution parmi les autres, donc il faut aller avec. Donc ça va transformer notre façon de travailler, mais je pense pas que ça va nous effacer pour autant.
Ouais, bien sûr.
Après, dans un autre sens, en toute logique, si on suit normalement la théorie, c'est que plus on est aidé par l'industrie ou l'IA ou ce que tu veux, normalement on est censé moins travailler, prendre plus de temps pour le perso, c'est-à-dire continuer à vivre de façon pleine, sans travailler, sans avoir un dur labeur, sans avoir ce genre de choses. Bah,
Avec
écoute,
un revenu universel, tout ça, enfin,
exactement, avec
il y a trop de trucs à mettre en place pour qu'on en arrive là pour de vrai, quoi.
un revenu où tu peux vivre correctement et tu peux avoir une vie parfaite, enfin quasi parfaite. C'était ce qui était un peu promis quand on a fait les révolutions industrielles. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a fait travailler encore plus les gens. Et en fait, on a produit encore plus, au final, plus que ce qui était prévu. Bah, si l'IA, ça nous permet de faire que du 2 jours sur 2 jours par semaine, et puis que le reste, c'est pour faire d'autres trucs qui sont plus cool, du bénévolat ou autre chose, bah, pourquoi pas? Du moment que si on a assez pour vivre à la fin, pourquoi pas? Voilà. On va voir comme ça, on verra.
Ouais, là, c'est une petite anecdote. Là, il y a un collègue qui a vibe codé un petit projet pour faire un petit prototype. Et c'est donc il y a une page web, c'est cool. Ça s'est connecté à une base Supabase, le Firebase open source. Et dans la page admin, alors le truc est déployé, donc c'est public. Enfin, déployé avec leur système. Bon, faut avoir l'URL, hein, mais sur la page admin, il y a marqué login, ça, mot de passe, ça, tu peux te connecter. Tout
Cool quand même.
va bien. Donc, Ouais, mon commentaire, c'était bon courage pour vibe sécuriser ton projet.
Oui, c'est
Parce que
ça.
les, enfin, les Firebase et alternatifs, c'est toujours un peu touchy le niveau sécurité. Enfin, il y en a tellement qui se font péter parce que la configuration est mal foutue. Sur YouTube, là, il y a une personne qui disait des bêtises sur le vibe coding et elle disait tu veux voir mon application? C'est facile, le nom de domaine, c'est localhost 2.3000, quoi. parce que déployer, c'est aussi une autre histoire, quoi. Donc il y a plein de domaines où tous ces outils-là peuvent pas encore nous aider, quoi.
Bah ouais, c'est ça. Non,
Donc
c'est pas
voilà.
simple. Puis pareil, si tu as un cloud provider, si tu as tout ça, bah c'est pas si simple non plus. Et puis il restera toute la partie sécurité, encore malgré tout,
Ouais,
que
ouais.
tu n'as jamais à l'IA parce que tu veux vérifier par toi-même. Même si on, nous aussi, enfin, en tant qu'humain, on fait des fautes, mais tu préféreras vérifier 3 fois, 4 fois.
Ouais.
Et puis, ouais, non,
Je
je
crois que moi
pense.
j'étais sur. Ouais, vas-y, pardon.
On a encore du temps, je pense, tranquillou.
Ouais. Ouais, je faisais. Parce que nous, on fait pas mal BigQuery. Alors, on n'a pas de la big data, mais BigQuery, c'est quand même pratique. Et puis, t'as le petit truc, vas-y, fais des requêtes à partir de l'anglais, là. Et tu dis, voilà, dans cette table-là, je veux renommer une colonne, quoi. Et en fait, il m'a fait le select en mettant le nom de la colonne as l'autre colonne. Ben, super, c'est pas ce que je veux, quoi. Donc c'était vraiment super drôle, quoi. Dernière question. Du coup, toi, en principal, là, tu disais que tu as plein de choses à apprendre et tu vas apprendre quoi après?
Alors, dans les pistes, il y a le côté où je vais peut-être travailler un petit peu plus avec les autres équipes. Ça m'intéresse pas mal d'aller voir les autres morceaux de Dailymotion, même si j'en connais une partie, mais pas dans leur fonctionnement de tous les jours. Donc ça me plaît bien. Ça me dit bien d'aller voir autre chose pour continuer à apprendre. Dans le poste que j'avais avant, qui était staff engineer, c'est un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect financier qui arrive en plus aussi. Et ça, c'est pas mal. Ça m'a bien plu. En gros, c'est on a justement notre système Léo, et forcément, on consomme de l'argent parce que il est sur des serveurs, on utilise une base de données, ça coûte de la mémoire, du CPU, des stockages, l'utilisation, enfin, le réseau, etc., etc. Et d'être sensible au fait que, ah bah mince, ce truc-là, ça me coûte tant, est-ce que je ne peux pas faire mieux pour que ça me coûte moins, tout en ayant la
Ah
même
oui.
performance? Et bah ça, c'est super. Enfin, moi, ça, j'ai trouvé ça trop, trop bien. C'est un aspect que j'avais jamais vu, enfin, jamais vu, non, mais on n'y faisait pas attention. Enfin, quand j'étais en SS2I, c'était open bar, vas-y, fais des requêtes de 3 Tera sur BigQuery, puis on verra bien. Et ça coûte très cher. Enfin, bref, c'est rationaliser un petit peu, ça je trouve ça trop cool, donc on va continuer à le faire. Dans le rôle de principal, il y a ça qui continue. Et puis parfois, c'était le cas dans mes 2 dernières semaines, tu es en avance de phase des fois sur certains gros projets qui vont arriver et tu décortiques le truc. Donc tu es assez proche du coup au final du CTO et tu vas aller en renfort tout de suite et dire, ah bah attends, techniquement, on va pouvoir aller dans ce sens-là. Et on va pouvoir mener le
OK.
truc comme ça. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super bien. Donc au final, si je dois schématiser, dans le côté principal, tu as le fait que tu vas être encore plus proche du fonctionnement de ton entreprise. Dans sa globalité. Et t'es pas juste dans une équipe et que tu fais un seul truc, tu vas voir un peu plus techniquement tout ce qui se passe quand il y a un projet qui se met en route, enfin, comment les équipes sont impactées, qu'est-ce qu'elles doivent faire chacune, et puis aider un petit peu tout ça. L'image que j'ai donnée à Amina, c'était je me sens un petit peu comme l'huile. Dans un rouage, tu vois, faut être malléable, faut aller un petit peu là où ça coince, où ça grippe, et puis pour que le tout fonctionne bien comme il faut. Donc il y a un petit côté un peu comme ça. Et c'est un côté touche à tout que j'aime bien. Alors je sais pas si c'est
Trop bien.
pareil partout, j'ai pas d'équivalent, je sais pas si le staff engineer et le principal engineer c'est pareil dans les autres boîtes. Je sais que ce level-là existe chez Google, Facebook, Amazon. Je sais pas à quoi ça correspond exactement, je sais pas c'est quoi leur feuille de route ou ce qu'ils font tous les jours, au jour le jour. La définition que j'ai de Dailymotion me plaît bien.
Eh ben, trop bien. Trop bien, trop bien. Un petit mot pour la fin?
Bisous.
Ou est-ce que toi, des bisous, ouais. Ou est-ce que toi, tu as une question ou quelque chose que tu veux rajouter?
Ah non, je pense qu'on a pas mal.
Pas mal, là.
Là, je pense qu'on a pas mal fait le tour, donc non, je dirais. J'irai de continuer de rester curieux et puis de faire ce qu'on aime. C'est le plus important.
Ouais, trop bien. Merci mon Florian.
Et bisous mon Siegfried.
Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Un grand, grand merci à Florian pour son temps. Je mettrai toutes les infos qu'il faut pour pouvoir le stalker sur les internets dans la description. Et puis, bah, par rapport aux épisodes précédents, on m'a écrit, il y a Romuald. Je suis très content d'avoir eu des nouvelles de Romuald. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté un petit peu. Lui, il parlait pour le web aussi, le côté... Alors, qui fait partie du suivi de l'application, la partie SEO, etc. C'est vrai que moi, j'en ai pas parlé. Donc, merci Romuald de m'avoir mis un petit mot. Je parle pas trop de ce que tu m'as répondu parce que je pense que ça pourra faire quelque chose lors d'un prochain épisode. Voilà. Il y a mon Colinou. J'avais parlé de mon Colinou qui fait des petits jeux, qui aimerait bien venir dans le podcast. Donc, bah, tu vois, là, on vient d'avoir un invité. Donc, je t'embêterai certainement dans les semaines ou dans les mois qui viennent pour que tu viennes nous parler un petit peu de tout ton univers. Sur ce, pour m'écrire, fullstack@zig.fr, donc fullstack comme fullstack, sans tiret, @sieg.fr. Et voilà. Salut!